nom, celui de Dieu. Et nous pouvons le voir dans l'histoire de l'Église, que l'Église a fait beaucoup de victimes. L'Église a tué des gens. L'Église a brûlé des gens au nom de Dieu pour défendre, soi-disant, les règles ou les lois de Dieu. Et ça, c'est ce que les scribes et les pharisiens nous amènent avec la loi de Moïse. Les pharisiens, c'est ces personnes qui pensaient toujours faire la police de Dieu. Oui, les pharisiens, ces personnes qui se croyaient des bons serviteurs de Dieu et qui, à plusieurs reprises, piégeaient Jésus dans des questions et voulaient entendre sa réponse. Ils voulaient savoir s'il était contre la loi de Moïse, pour ainsi dire, comme dit les textes, pouvoir l'accuser. Les scribes amenèrent une femme et, je dirais, la jetèrent là. Et ils voulaient entendre le point de vue de Jésus sur la loi de Moïse. Et Jésus qui enseigne, lui, parce qu'il était, peut-être nous ne le savons pas tous, il était bien rabbin, mais un rabbin atypique, il n'était pas comme tous les autres. Et la foule l'écoutait avec attention. Mais quand les pharisiens et les scribes ont amené la femme, ils avaient des pierres. Parce que je pense que venir chez Jésus, c'était une formalité. Dans leur tête, on va lapider. Avant de continuer, nous pouvons aussi voir que cela se faisait sans ménagement, c'est-à-dire pas de temps d'examiner toute la situation. On a trouvé, ah, il faut qu'on aille l'exécuter, c'était la loi de Moïse. Je vais vous raconter une petite histoire, j'en ai plein d'histoires, moi. J'étais dans une église, pas loin d'ici, et il y avait dans cette église, comme toutes les églises, hein, il y avait un monsieur et une dame. Et ce monsieur et la dame, personne ne savait qu'ils étaient voisins des paliers, que l'autre habitait en haut, l'autre habitait en bas. Et plusieurs fois, une dame le voyait dans le supermarché faire des courses. C'était tout à fait évident parce que le monsieur était taxi et la dame ne savait pas conduire. Elle était aussi, il y a des faits qui ne pouvaient que faire surgir des... Le monsieur n'avait pas de femme, la dame n'avait pas de mari. Ainsi donc, si elle avait des courses à faire, il demandait à son voisin qu'ils aillent faire des courses pour pouvoir le ramener, c'était des packs d'eau, des choses lourdes. Mais la pauvre dame qui les a vus deux, trois, quatre fois dans le supermarché ne pouvait pas s'empêcher de réfléchir autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller voir ou de chercher à comprendre ce qui se passe, c'est comme toujours, ah, je vais te confier quelque chose, tu sais, et puis je ne dis qu'à toi, hein. Passe de l'autre côté. Je ne dis qu'à toi. Personne n'est au courant, mais moi, je les ai vus. Ainsi de suite, tout le monde était au courant, mais personne ne disait rien. Jusqu'à ce que l'histoire a fait le tour pour arriver aux deux personnes concernées. Le monsieur était très en colère. La dame aussi. Mais la dame a pu contenir sa colère. Mais le monsieur était très mal. Au jour d'aujourd'hui, le monsieur est témoin de Jéhovah. Parce qu'il est parti de l'église. Il ne pouvait pas supporter. Alors, ce genre de phénomène, c'est notre manière de vouloir travailler pour Dieu. Mais il faut qu'on aille jusqu'au bout de la mission qui consiste à aller voir la personne. Les pharisiens sont arrivés avec une seule intention. Ils avaient deux intentions, celle de lapider d'abord la femme et vouloir accuser Jésus par cette question de savoir, comme Moïse dit ceci, toi, qu'est-ce que tu dis? Sur la position de Jésus qui écrivait, il y a des discussions un peu là-dessus. Comme toujours, il y a des grands savants qui pensent que Jésus voulait exprimer les côtés figés de la loi qui était dans les tablettes et là, quand il écrivait sur le doigt, que ce soit quelque chose de plus mobile, de plus souple. Mais ce n'est pas vraiment notre intérêt dans le texte. Mais c'est la manière dont Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors que le texte de Paul aux Romains au chapitre 3 verset 23 nous dit que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Et pour cela, nous devons avoir toujours l'attitude de celui qui demande, de celui qui se sent pécheur, pour ne pas condamner. Et puis, ils se retirèrent un à un, parce que ils avaient pris conscience qu'effectivement nous voulons faire la justice, mais nous-mêmes nous sommes réprenables. Et qu'est-ce que nous dit la parole dans Matthieu 18? Si on peut voir ce texte, Matthieu 18 du verset 15 au verset 20. Matthieu 18, Voilà. Si c'est un, ce sont des versets que nous connaissons. Hein. Si ton frère a péché, va et réprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. Et aussi, nous avons Luc 17 qui nous parle de ceux qui sont forts. Luc 17, versets 3 à 4. Ceux qui sont forts, voilà, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Oui, la parole est très claire là-dessus. Nous devons avoir une attitude d'amour envers un frère ou une sœur qui a péché ou qui se trouve dans l'erreur, parce que nous savons que nous aussi, oui, mes chers frères et sœurs, savons-nous combien le nombre de ceux qui ont tourné les dos à l'Église à cause de nos jugements hâtifs, à cause de nos accusations. Et, mes chers frères, nous nous appelons frères et sœurs, mais hélas, ça reste un discours presque du dimanche. Ici, Jésus sauva quatre vies. Il y avait la femme à qui il a sauvé physiquement la mort certaine, car on allait la lapider, la tuer physiquement. Mais quand à la fin, il dit « Va et ne pêche plus », Jésus sauva donc cette femme, une deuxième fois, face à ses péchés, la femme devait changer de comportement. Car ne plus pécher, c'est ne plus avoir la même attitude qu'avant. Oui, Jésus sauva la vie de la foule qui accompagnait les pharisiens et les scribes, parce qu'ils ont compris que eux aussi, ils étaient pécheurs, et qu'ils avaient aussi à se repentir. Oui, nous voulons aussi inclure la foule que Jésus enseignait avant que les pharisiens arrivent. Oui, cette conversion, ce sont des vies sauvées. Au travers de ces textes, nous voyons Jésus qui nous montre comment conjuguer la justice et la miséricorde. Il fait en sorte que tout le monde reparte libre. La femme, la foule et tout ce qui était là. Dans ces démarches, dans les démarches du Christ, on voit que l'amour avait beaucoup plus de place. L'amour était devant. Et à nous aussi, nous ne pouvons pas condamner hâtivement. Mais dans l'amour, nous n'avons pas à tenir prisonniers dans leur péché quand quelqu'un commet une erreur. Ça, c'est très important. Quand quelqu'un a commis une erreur, il faut vite le secourir et non pas le pointer du doigt. Que cela soit en famille, nous voyons bien des enfants, après une erreur, l'enfant qui grandit, qui ne connaît pas encore tout, l'enfant qui ne connaît pas la notion de la propriété, et qui va prendre une pièce, on ne l'appellera pas voleur. On va plutôt lui faire comprendre qu'il ne faut pas prendre ce qui n'est pas à vous. Il ne faut pas enfermer quelqu'un dans son erreur. C'est ça la plus grosse erreur de la société. Quand quelqu'un va en prison pour un problème donné, et très souvent, on lui revêt sa tenue d'un homme mauvais. On ne pense pas enlever ce qui commençait à perturber sa vie, mais on pense plutôt, ah tiens, lui, il est voleur, il était en prison. Partout il passera, sa référence, c'est son passage en prison. Alors que lui, il ne pense qu'à enlever cette erreur en lui. Mais comme la société l'enferme dans cette erreur, eh bien à la fin il dira, ben comme on veut que je sois ceci, et je vais rester cela. C'est ça notre erreur. Oui, celui qui ne s'est pas fait prendre, celui-là va vaguer dans notre société. Et tous les criminels que nous avons dans notre société, nous ne les connaissons pas. Ils sont heureux et nous avons confiance en eux. Mais celui qui commet une erreur, on la ferme, on la ligote dans sa faute et on ne veut pas se donner la peine de les libérer. Ici, Jésus dit à la dame, ne pêche plus, change tes comportements. Et mes chers frères et sœurs, au travers de cette histoire de cette dame, que le texte dit adultère, nous devons apprendre tout simplement à libérer, ne pas enfermer quelqu'un dans son péché, dans sa faute, mais plutôt penser toujours à voir d'abord ce que nous sommes, ce que nous avons en nous, avant de condamner avec force. D'ailleurs, c'est parce que l'Évangile nous demande. Nous puissions récupérer notre frère qui s'égare ou qui a fait un faux pas. Que le Seigneur donc nous donne de regarder toujours et encore avec amour nos frères et sœurs qui nous entourent, si nous nous sentons forts, de les venir en aide, sinon peut-être que plus tard ça sera l'inverse. Que le Seigneur nous bénisse à travers ces récits de cette dame. Oui, à nous aussi, nous allons partir et nous allons changer notre attitude envers ceux qui sont en difficulté. Amen.